Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, une émission en partenariat aujourd'hui avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, à l'occasion du colloque « L'Irak, un État sans nation, contestation, ingérence, milicisation ». Depuis le 1er octobre, un mouvement de contestation spontanée lancé par la jeunesse chiite embrase l'Irak. Les manifestants réclament la chute du régime, la refonte du système politique basé sur le confessionnalisme, un renouvellement complet de la classe dirigeante. Ils exigent la fin de la corruption, dénoncent l'ingérence iranienne dans leur pays et n'hésitent pas à critiquer les religieux. Pris de court, le pouvoir coupe Internet pendant 2 semaines et répond par une sanglante répression. 500 morts au moins et 17 000 blessés. Des assassinats ciblés, des enlèvements, des dizaines d'arrestations. Une répression qui n'a fait que renforcer la détermination des jeunes contestataires. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? La colère et le désespoir peuvent-ils conduire à la création d'un front uni au-delà des clivages religieux ou communautaires? Le pouvoir irakien a-t-il encore une légitimité? On en débat avec nos invités. Loulou Al-Rachid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, consultante spécialiste de l'Irak, basée à Beyrouth. Adel Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de sociologie d'Irak à l'université de Soran, au Kurdistan irakien. Et Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Adel Bakawan, je vais commencer avec vous. En quoi ce mouvement de contestation est-il inédit en Irak ?
Parce que tout simplement, pour la première fois depuis 2003, on a un mouvement de contestation qui n'est pas ethnique, les Arabes contre les Kurdes, les Kurdes contre les Arabes. Il n'est pas confessionnel, les chiites contre les sunnites contre les chiites. C'est un mouvement, il faut le dire, qui est émergé à l'intérieur de la communauté, de la maison du territoire chiite. Autrement dit, dans le sud de l'Irak, de Bassoura jusqu'à Bagdad. Ce territoire dominé socialement, culturellement, économiquement, à toutes les échelles, par la communauté chiite. Ça, c'est la première nouvelle de ce mouvement de contestation. La deuxième, c'est que pour la première fois, ce mouvement de contestation d'une base sociale chiite, frustrée, abandonnée, marginalisée, livrée à elle-même contre les élites chiites, hyper privilégié. C'est pourquoi je dis cette base sociale à 89%, cette base sociale là n'a aucune confiance en cette élite qui dirige le gouvernement. Et donc la deuxième nouveauté de ce mouvement de contestation, pour la première fois, vous avez un mouvement qui est capable de renvoyer un premier ministre. Ce qui est inédit depuis 2003. Vous avez un mouvement qui met en doute la totalité de l'existence de cette classe politique. Vous avez un mouvement qui obtient ce que j'appelle la réforme de la constitution, ce qui était un tabou pour les Kurdes et les autres communautés, même pour les chiites. Vous avez un mouvement qui obtient à peu près, avec la caution de la marjaïa, sans... Je ne sais pas si le système économique irakien peut financer ce projet, mais 125 000 emplois, 45 000 logements. Voilà, il y a quand même des nouveautés, il y a quand même une phase extraordinaire dans la trajectoire de ce mouvement de contestation.
Loulou Al-Rachid, est-ce que ce mouvement marque un tournant pour le régime mis en place en 2003 après la chute de Saddam Hussein?
Oui, indéniablement. Et je rajouterais, vous avez posé la question de qu'est-ce que ce mouvement change, en quoi est-il différent. Adel a très bien souligné la nature de ce mouvement qui n'est ni ethnique ni confessionnel, mais qui porte sur des revendications sociales et économiques. Je dirais que ce qui est inédit aussi dans ce mouvement, c'est l'ampleur de la répression. Et je crois qu'il faut le souligner, la répression qui a débuté dès le 1er octobre, dès le début de ce cycle de manifestations et de protestations, est d'une ampleur totalement inédite. Depuis 2003, nous n'avons pas vu le pouvoir en place à Bagdad réprimer d'une manière aussi violente, aussi sanglante. Il y a probablement 500, quelque chose comme 500 morts tués par les forces de l'ordre ou les forces du désordre, puisqu'on ne sait pas qui réprime en Irak. L'État se défausse sur des tierces parties, sur des miliciens. Mais en tout cas, la répression a déjà fait 500 morts et plus de 15 000 blessés. C'est quelque chose d'extrêmement brutal, violent. Et je crois que ce cycle de violence n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, pour moi, c'est un aspect extrêmement important à souligner, la violence. C'est un régime qui est dans l'impasse, qui est totalement dans l'impasse. C'est une impasse. C'est le régime mis en place par les Américains en 2003 et tel qu'il a été repris par les élites irakiennes rentrées d'exil et qui l'ont fait fonctionner et qui l'ont totalement dominé et contrôlé. C'est un régime qui, aujourd'hui, en 2019, fin 2019, a atteint un point de non-retour. Il est dans une faillite politique, dans une faillite économique et dans une faillite, je dirais, morale. Il est totalement, totalement discrédité et rejeté par l'ensemble de la population qui ne voit dans cette classe dirigeante qu'une oligarchie de corrompus qui ont tout simplement pillé le pays et vidé le pays de ses richesses et qui ont exfiltré des sommes colossales, des milliards et des milliards de dollars. Rappelons que l'Irak est un pays riche, c'est un pays pétrolier qui produit, qui est aujourd'hui le troisième producteur mondial de pétrole. Et toutes ces richesses-là, aux yeux des Irakiens, aux yeux du citoyen irakien, ces richesses sont parties en fumée puisque ces conditions de vie, depuis 2003, n'ont fait que se dégrader. Et quand on parle de dégradation, ce sont des conditions sanitaires épouvantables. Le système éducatif a totalement régressé. L'infrastructure de santé est dans un état lamentable. Et je dirais que
Il n'y a pas de services de base. Donc
les services de base sont totalement inexistants. Il y a deux ans, il y a eu un empoisonnement à Bassora puisque l'eau dans les robinets était empoisonnée. Il y a eu plus de 100 000 cas d'empoisonnement à cause de l'eau. Donc voilà ce qui se joue aujourd'hui. Je crois que le régime mis en place en 2003 a atteint un point de non-retour pour moi.
Agnès Levallois, vous êtes rentrée d'Irak il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous a frappé chez ces jeunes contestataires ?
Ce qui m'a frappé, c'est leur détermination. C'est le fait qu'ils n'ont rien à perdre. Et ils ne cessent de dire qu'ils n'ont rien à perdre et qu'à partir de là, ils iront jusqu'au bout. Et qu'en dépit de la répression telle que Loa l'a souligné, qui est d'une violence extrême, ils nous disent clairement et sans aucune hésitation que, en dépit de cette violence, de cette répression utilisée par le régime, ils iront jusqu'au bout avec cette explication très simple qui est de dire, de toute façon, qu'on meure à petit feu chez nous ou qu'on meure brutalement en place Tahrir, ça ne fait aucune différence parce que dans les deux cas, de toute façon, on disparaît. Donc, à partir de là, s'il y a un espoir ou s'il y a une possibilité d'expression, on ira jusqu'au bout parce que, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et moi, j'ai vraiment été frappée par ces déclarations de beaucoup de jeunes. Et c'est frappant quand on voit des jeunes, parce que là aussi la particularité de ce mouvement, c'est qu'il y a un nombre de jeunes, mais jeunes, 13, 14, 15, 16 ans, des gamins qui sont dans la rue et des gamins de cet âge-là qui vous disent qu'ils n'ont rien à perdre. C'est absolument terrifiant de ce que ça signifie d'un pouvoir qui a complètement abandonné sa population et sa jeunesse en particulier, puisque la jeunesse en Irak est majoritaire. Et donc on voit bien effectivement cette faillite du système, du régime, qui n'est absolument pas en mesure de donner, d'offrir à sa jeunesse, je dis même pas des grandes perspectives, mais un minimum de quoi vivre, de quoi survivre. Et cette jeunesse qui n'en peut plus d'être dans une situation justement de survie et à peine de survie, dit de toute façon, on n'a rien à perdre. Et ce qui est absolument sidérant aussi dans ce mouvement, c'est la créativité, c'est la façon dont on ces jeunes de s'exprimer sur les murs Place Tahrir. Et là, vous avez des jeunes, et Loa l'a souligné, qui sortent d'un système éducatif lamentable, où tout est complètement par terre. Et vous avez ces jeunes, beaucoup d'entre eux sont presque analphabètes parce que le système scolaire ne leur permet pas d'avoir acquis le minimum de connaissances et qui expriment à travers les graffitis, les dessins sur les murs, une créativité, une intelligence, une maturité, un esprit critique absolument saisissant. Et donc je pense que ce décalage est encore plus frappant aujourd'hui entre cette élite qui s'enrichit tous les jours un peu plus, vieille, vieillissante, qui comprend rien, et cet éclatement de cette jeunesse qui est prête à aller jusqu'au bout et quitte à perdre la vie. Et effectivement, le nombre de morts, on avance 500 et c'est probablement bien plus que ça.
Quels sont les slogans les plus fréquents qui reviennent ou qui vous ont marqué?
Il y en a un que j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'on voit, vous savez, les tuk-tuk qui sont ces petites motos, taxi-motos et qui trimballent tout le monde, et en fait avec une poubelle derrière, et donc on dit la poubelle dans laquelle on va mettre tous les dirigeants. Mais il y en a tellement, alors je les ai plus tous en tête, mais Louloua, je suis sûre que tu en as d'autres en tête.
Alors, ils sont descendus, les jeunes, effectivement, donc ce sont les artisans, les héros et les martyrs de cette révolution sont des adolescents, et c'est important de le souligner. Quand on voit les 500 morts, il y a une écrasante majorité de mineurs parmi les victimes de la répression. Les slogans les plus importants, c'est « Je descends prendre mes droits ». Ça, c'était un des slogans les plus entendus. Un autre slogan était « Je veux une patrie ».
Je veux une patrie, oui. Ça, je l'ai entendu, je l'ai beaucoup entendu.
Et ça, c'est extrêmement important. C'est une révolution pour la dignité. Les jeunes veulent être respectés. Effectivement, le fossé entre la classe dirigeante vieillissante, plus ou moins coupée des réalités du pays, et cette jeune génération a été sous-estimée. Et je crois que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est de constater à quel point les élites dirigeantes, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir depuis 2003, ont été frappés par l'ampleur et la violence de la contestation et du rejet. Ces jeunes-là ne sont pas prêts à faire des compromis, ne sont pas prêts à accepter les concessions que le pouvoir leur promet, les centaines de milliers d'emplois qu'on leur promet, les logements qu'on leur promet. Ils n'ont plus confiance dans cette élite dirigeante et dans sa capacité à réformer le système ou à changer son comportement et sa façon de gouverner et d'administrer le pays. Ce sont des jeunes qui veulent aujourd'hui en découdre. Alors pour le moment, le mouvement reste pacifique, plus ou moins. La protestation reste plus ou moins pacifique, mais on voit déjà des signes avant-coureurs d'une possibilité de radicalisation. Et c'est là, je crois, nous sommes à un tournant aujourd'hui dans ce cycle de protestation, et je crois que c'est ce qu'il va falloir surveiller de près dans les jours à venir.
Jeudi matin, par exemple, un adolescent accusé d'avoir attaqué des manifestants a été lynché puis pendu à Bagdad. Apparemment, tout est parti d'un différend entre cet adolescent et des manifestants. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acte barbare? Parce que les contestataires affirment que ce sont les milices qui sont à l'œuvre, qu'il s'agit d'un complot, d'une machination pour décrédibiliser le mouvement de contestation. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres?
Ce que je pense, c'est que de toute façon, il y a des forces aujourd'hui à l'œuvre, effectivement, qui de toute façon se rendent bien compte que ce mouvement leur échappe complètement. C'est-à-dire ce mouvement vraiment de jeunes qui ne répondent à aucun mot d'ordre, qui sont vraiment eux sur le terrain à gérer la situation, qui veulent vraiment garder cette autonomie de réaction par rapport à ce mouvement qu'ils ont lancé, qu'ils ne veulent pas se faire prendre par des groupes. Et on voit bien des milices, alors là c'est toute la question des milices, qui sont ces milices entre les forces de l'ordre, les milices, à qui répondent-elles? Et on voit bien qu'il y a un jeu dramatique et évidemment très dangereux à terme, entre ceux qui voudraient que ce mouvement s'arrête parce que effectivement cette provocation vécue comme telle par un certain nombre de responsables et de milices face à ces jeunes qui leur échappent complètement et qui veulent complètement mettre à bas ce régime. Et donc ces groupes-là ne veulent pas se laisser faire. Et donc le meilleur moyen de réagir, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser la violence, d'essayer de fractionner ce mouvement, de faire en sorte que ce mouvement qui jusque-là arrive à gérer... C'est impressionnant la façon dont les jeunes gèrent même la place Tahrir. Ils la gèrent complètement, ils ramassent les ordures, il y a des groupes qui viennent apporter la nourriture, il y a des groupes qui viennent, il y a des médecins, des infirmiers et infirmières, il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement aussi qui viennent, qui s'occupent de ces jeunes. Donc on voit bien cette organisation telle qu'elle s'est mise en place et qui dure sur le temps. Ça fait 2 mois que ce mouvement a commencé et cette organisation continue à permettre à ces jeunes de vivre à Place Tahrir. Et donc ça, c'est un défi majeur pour les autorités et pour les milices qui se disent, mais finalement, ils arrivent à s'organiser, ils arrivent à être extrêmement responsables et donc Pour eux, c'est absolument intolérable, d'où je pense la volonté de certains d'essayer effectivement de casser, de fragmenter et de revenir, je veux dire, à des réflexes autres et peut-être effectivement de faire en sorte que les gens se dressent les uns contre les autres, comme l'exemple de ce drame qui est arrivé jeudi, effectivement peut être un signe avant-coureur de cette volonté de fragmentation de ce mouvement et pour l'affaiblir au bout du compte.
Adèle Bakaouane, pourquoi est-ce que ce sont dans les villes saintes chiites que la répression a été la plus violente, que le bilan est le plus meurtrier?
Pour plusieurs raisons, plusieurs causes, mais la cause majeure, c'est que à ce jour-là, vous avez à peu près entre 100 et 130, voire 160 000 miliciens, majoritairement de cette région-là, du pays des chiites, et surtout du Najaf, du Karbala, de toutes ces villes saintes. Et ces milices ne sont pas forcément organisées ou sous le contrôle de l'État central, si on peut encore parler de l'État central. Autrement dit, la gestion de la violence de la part de ces milices est organisée d'une manière autonome à l'intérieur de ce mouvement. La première. La deuxième cause, cette base sociale en révolte à Najaf, à Karbala, à Samao, mais dans d'autres villes chiites, ont un slogan. Par exemple, à Bagdad, on dit « Nourid Watan » ou ça, c'est le slogan majeur. Ou « Accès à la dignité ». Voilà, on voit une patrie, on voit un pays, on voit un État, mais à Najaf, à Karbala et dans d'autres villes, dans le sud, on dit « Iran Barab ». Barra, demande Iran le départ de l'Iran. Iran dehors. Et on sait très très bien, une bonne partie de ces milices appartiennent directement à ce qu'on appelle dans le fiqh, dans la jurisprudence chiite, à l'Wilayat al-Faqih. C'est-à-dire, ils reçoivent directement l'ordre de Ayatollah Khamenei et non pas ni de Ali Sistani ni d'Adel Abdul Mahdi.
Ali Sistani, qui est donc la plus haute autorité religieuse chiite en Irak.
Voilà.
Loulou al-Rachid. Les religieux ont perdu également tout crédit auprès de cette jeunesse désespérée.
Je crois que c'est quand on dit le système, le pouvoir, et le pouvoir, il ne faut pas oublier que depuis 2003, ce pouvoir s'appuie sur ce qu'on appelle la marjaïa, qui est la plus haute autorité religieuse chiite, qui est le clergé chiite, avec à sa tête l'ayatollah Sistani. Ce clergé a cautionné le système politique mis en place en 2003 par les Américains. Il a cautionné la vie politique, il a cautionné la vie parlementaire, et je dirais, il a même donné une légitimité aux milices regroupées aujourd'hui sous la dénomination de la mobilisation populaire, c'est-à-dire une cinquantaine de milices de tailles différentes, bien entendu, et de poids différents. Mais en tout cas, ce sont les milices qui se sont battues, qui ont secondé les forces armées régulières dans la guerre contre Daesh. Donc le clergé aujourd'hui est perçu comme étant complice de cette classe politique qui a pillé le pays. Et je dirais que l'Irak n'en est pas, depuis 2003, ce n'est pas ce n'est pas le premier cycle de mobilisation. Il y en a eu d'autres. Dès 2010-2011, avec le début des printemps arabes, l'Irak aussi a connu des manifestations place Tahrir, donc dans la place centrale à Bagdad. Mais il n'était pas de cette ampleur et le régime avait pu les étouffer. Mais je dirais qu'un des slogans qui était apparu en 2015 était Besmeddin Bagoun al-Haramiyya. C'est au nom de la religion, les voleurs nous ont volés. Donc c'était une mise en accusation très très nette du clergé religieux, de toutes ses compromissions. Aujourd'hui, vous avez dans le Parlement irakien un bon nombre de députés qui sont des religieux, qui sont enturbanés. C'est un système qui a été lourdement cautionné par le clergé chiite, qui en a tiré aussi d'immenses bénéfices, à la fois symboliques économiques et financiers, bien entendu.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler du vent de contestation qui souffle sur l'Irak.